54. Trévise recula, intrigué. Qu'est-ce qu'un enfant faisait ici? Xander s'était montré si fier de son absolue solitude. Il avait tellement insisté là-dessus. Pellerat, le moins apte des trois à retrouver un raisonnement inflexible devant un événement obscur, embrassa aussitôt la solution et dit « Je suppose que voilà notre successeur ?» L'enfant de Xander approuva joie. « Mais trop jeune, ce me semble, pour être un successeur. Les Solariens vont devoir chercher ailleurs. » Elle considérait l'enfant, sans le fixer, mais avec un regard doux, magnétique, et lentement ses cris diminuèrent. Le petit être ouvrit les yeux et rendit à joie son regard. Les pleurs s'étaient réduits à quelques vagissements. Joie, de son côté, s'était mise à pousser des petits cris rassurants, des mots hachés qui, en eux-mêmes, ne voulaient pas dire grand-chose, mais avaient pour seul but de renforcer l'effet apaisant de ses pensées. C'était comme si elle avait mentalement caressé l'esprit inconnu de cet enfant pour tâcher d'y démêler l'embrouillamini des émotions. Avec lenteur, sans jamais quitter joie des yeux, l'enfant se releva, resta quelques secondes vacillant, puis fonça vers le robot figé, silencieux. Il passa les bras autour de l'épaisse jambe robotique, comme avide de retrouver la sécurité de son contact. « Je suppose, » nota Trévise, « que ce robot est sa nourrice ou son gardien. Je suppose qu'un Solarien serait incapable de s'occuper d'un de ses semblables, pas même un parent d'un enfant. » « Et je suppose que l'enfant est hermaphrodite, » ajouta Pellerat, « nécessairement. » Toujours entièrement absorbée par l'enfant, Joie approchait avec lenteur, les mains à demi relevées, les paumes tournées dans sa direction, comme pour mieux souligner qu'elle n'avait nulle intention de s'emparer de la petite créature. L'enfant était maintenant silencieux et surveillait son approche, étreignant de plus belle le robot.
« Là, petit, » disait Joie, « tout doux, petit, tout doux. « Tout chaud, gentil, sage, petit sage, sage. »
Elle arrêta, puis sans détourner la tête, dit à voix basse,
« Pelle, parlez-lui dans sa langue. Dites-lui que nous sommes des robots venus nous occuper de lui par suite de la panne de courant. »«
Des robots ?»
s'exclama Pellerat, outré.
Il faut qu'on se présente ainsi. Il n'a pas peur des robots et il n'a jamais vu d'être humain. Peut-être même qu'il est incapable d'en concevoir l'existence.
Je ne sais pas si j'arriverai à trouver l'expression convenable. J'ignore le terme archaïque pour robot.
Alors dites robot.
Pelle, si ça ne marche pas, dites chose en fer. Dites ce que vous pouvez.
Lentement, mot à mot, Pellerat s'exprima en langue archaïque. L'enfant le regarda, les sourcils intensément froncés, comme s'il cherchait à comprendre. « Vous feriez aussi bien de lui demander comment on sort tant que vous y êtes, » observa Trévise.
« Non, » objecta Joie. « Non, pas encore. La confiance d'abord, l'information ensuite. »
Examinant à présent Pellerat, l'enfant relâcha lentement son étreinte sur la jambe du robot et se mit à répondre d'une voix musicale haut perchée.
« Il parle trop vite pour moi !»
s'alarma Pellerat.
« Demandez-lui de répéter plus doucement. Je vais faire de mon mieux pour le calmer et lui retirer ses craintes. »
Écoutant à nouveau l'enfant, Pellerat traduisit.
« Je crois qu'il demande ce qui a fait s'arrêter Jembi. Ce doit être le robot.
Vérifiez-le, Pell. »
Pellerat parla, écouta, puis dit enfin
« Oui, Jembi, c'est le robot. L'enfant dit s'appeler Phalum. »
« Bien !»
Joie lui sourit. Un sourire radieux, heureux, pointa le doigt vers lui et dit
« Phalum. Bien, Phalum. Gentil, Phalum. »
Puis elle posa la main sur sa poitrine et dit
« Joie !»
L'enfant sourit. Il était très mignon quand il souriait.
« Zoie !»
fit-il en zozotant légèrement. « Joie !» dit Trévise, « si vous pouviez activer le robot Jambi, il pourrait peut-être nous indiquer ce que nous cherchons. Pellorat peut lui parler aussi facilement qu'au gosse. »«
Non !» dit Joie. « Ce serait une erreur. La première tâche du robot est de protéger l'enfant. S'il est activé et prend aussitôt conscience de notre présence, nous, des humains bizarres, il risque de nous attaquer aussitôt. Aucun humain bizarre n'habite ici. Si je suis obligé alors de le désactiver, il ne pourra plus nous fournir d'informations, et l'enfant, confronté à un second arrêt du seul parent qu'il connaisse... Enfin bref, je n'en ferai rien. Voilà.
Mais on nous a dit, remarqua doucement Pellorat, que les robots ne peuvent pas faire de mal aux humains.
Peut-être, dit Joie.
Mais on ne nous a pas dit quel genre de robot ces solariens ont conçu. Et même si ce robot précis a été programmé pour ne pas faire de mal, il risque d'avoir à faire le choix entre cet enfant, ou ce qui lui paraît le plus proche d'un enfant, et trois objets qu'il pourrait fort bien ne pas reconnaître comme des êtres humains, mais plutôt comme de vulgaires intrus. Naturellement, il choisira l'enfant et nous attaquera.
Elle se retourna vers le gosse.
Phalum, dit-elle. Joie.
Puis, pointant le doigt,
Pelle. Trêve. Pelle. Trêve,
dit l'enfant docile. Elle se rapprocha, tendant lentement les mains. Il la regarda approcher, puis recula d'un pas.
« Tout doux, Phalum, » dit Joie. « Bien, Phalum. Touche, Phalum. Gentil, Phalum. »
Il fit un pas vers elle et Joie sourit.
« Bien, Phalum. »
Elle effleura son bras nu, car il n'était, comme son géniteur, vêtu que d'une longue tunique ouverte sur le devant, avec un pagne en dessous. Le contact était léger. Elle retira son bras, attendit, renoua le contact, caressant doucement. Les yeux de l'enfant se fermèrent à moitié sous le puissant effet apaisant de l'esprit de Joie. Celle-ci éleva les mains lentement, doucement, effleurant à peine jusqu'aux épaules de l'enfant, son cou, ses oreilles, sous les longs cheveux bruns, jusqu'à un point situé juste au-dessus et en avant des oreilles. Elle laissa retomber les mains, puis dit
« Les lobes transducteurs sont encore petits. Les os du crâne ne se sont pas encore développés. Il n'y a qu'une épaisse couche de peau qui doit saillir vers l'extérieur en étant protégée par le bouclier osseux quand les lobes auront atteint leur taille définitive, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, il est incapable de contrôler le domaine ou même d'activer son robot personnel.
Demandez-lui son âge, Pelle. »
Après un échange, Pelle répondit
« Il a 14 ans, si j'ai bien compris. »
« Je lui en donnerai plutôt 11, » remarqua Trévise.
« La longueur des années en usage sur ce monde ne correspond peut-être pas exactement à l'année standard galactique. En outre, on suppose que les spatiaux ont une durée de vie allongée, et si les solariens sont analogues aux autres spatiaux en ce qui concerne ce critère, leur période de développement est peut-être également allongée. Après tout, nous ne pouvons pas non plus nous débrouiller seuls avant des années. »
Trévise l'interrompit, clapant de la langue avec impatience. « Assez d'anthropologie. Nous devons regagner le sol. Et avec ce gosse entre les jambes, nous risquons de perdre inutilement notre temps. Il risque de ne pas connaître le chemin vers la surface, et même de n'y être jamais monté. »«
Pelle ?»
appela Joie. Ce dernier comprit ce qu'elle désirait. S'en suivit la plus longue conversation qu'il ait eue avec Phalum. Enfin, il expliqua.
L'enfant sait ce qu'est le soleil. Il dit qu'il l'a vu. Personnellement, je crois même qu'il a dû voir aussi des arbres. D'après son comportement, il n'est pas évident toutefois qu'il sache vraiment ce que signifie le terme, ou à tout le moins, le terme que moi j'ai utilisé.
D'accord, Janov, dit Trévise, mais venez-en au fait, s'il vous plaît.
J'ai dit à Phalum que s'il pouvait nous mener à la surface, cela nous donnerait la possibilité d'activer le robot. À vrai dire, je lui ai dit que nous l'activerions. Vous pensez qu'on devrait ?
On s'inquiétera de ça plus tard. A-t-il dit qu'il nous guiderait ?
Oui. J'ai pensé que l'enfant serait plus enclin à nous aider, voyez-vous, si je lui faisais cette promesse, mais je suppose qu'on courrait le risque de le décevoir.
Bon, pressa Trévise, allons-y. Tout ce débat risque d'être académique si nous restons piégés sous terre.
Pellerate dit quelques mots à l'enfant, qui se mit en marche, mais s'arrêta bientôt, se retournant pour regarder Joie. Celle-ci tendit la main, et tous deux partirent, les doigts enlacés.
« Je suis le nouveau robot, »
dit-elle en esquissant un sourire.
« Ça ne paraît pas trop lui déplaire, » observa Trévise.
Phalum trottinait, et fugitivement, Trévise se demanda s'il était heureux simplement parce que Joie s'y était employée, ou bien si, en outre, s'y ajoutait l'exaltation de visiter la surface en compagnie de trois nouveaux robots, à moins que ce ne fût à la perspective de retrouver son père adoptif, Jambi. Non que tout cela eût une quelconque importance, pourvu que l'enfant les conduisît. Ce dernier semblait progresser sans aucune hésitation. Il tournait sans tergiverser lorsqu'il y avait un carrefour. Savait-il vraiment son chemin? Ou bien n'était-ce qu'une question d'indifférence enfantine? Celle d'un enfant qui joue sans objectif précis. Mais Trévise percevait, à la légère difficulté de sa progression, qu'ils étaient en train de monter, et l'enfant, bondissant avec autorité, se mit à pointer le doigt en babillant. Trévise regarda Pellerate, qui se racla la gorge, et dit
« Je pense qu'il nous indique une porte. »«
J'espère que vous pensez correctement, » dit Trévise. L'enfant avait lâché la main de Joie pour détaler au pas de course. Il indiquait une portion du sol qui semblait plus sombre que les sections immédiatement voisines. Il y posa le pied, sauta dessus plusieurs fois, puis se retourna, l'air désemparé, et se remit à babiller d'une voix perçante. Joie fit la grimace et remarqua
« Il va falloir que je fournisse l'énergie. Tout cela m'épuise. »
Son visage se congestionna légèrement, la lumière décrut, mais une porte s'ouvrit juste sous le nez de Phalum, qui émit un ravissant rire cristallin. Il franchit la porte au galop, et les deux hommes suivirent. Joie vint en dernier, se retournant pour voir la lumière s'éteindre à l'intérieur et la porte se refermer. Elle marqua un temps d'arrêt pour reprendre son souffle, apparemment épuisé.
« Eh bien, »
dit Pellerate,
« nous voilà dehors. Où est le vaisseau ?»
Un crépuscule lumineux les inondait encore. « Il me semble que c'était dans cette direction. » marmonna Trévise.
« À moi aussi, » confirma Joie. « Allons-y. »
Et elle tendit la main à Phalum. Il n'y avait aucun bruit hormis ceux produits par le vent, ou les mouvements et les cris d'animaux. À un moment, ils dépassèrent un robot qui se tenait immobile près de la base d'un arbre, tenant un objet à la destination incertaine. Pellerate s'avança, apparemment curieux, mais Trévise le rappela à l'ordre. « Ce n'est pas notre problème, Janov, continuez. » Ils dépassèrent encore un robot plus loin, qui était tombé. « Je suppose qu'il doit y avoir des robots éparpillés sur des kilomètres, » nota Trévise, puis, triomphant,
« Ah ! Voilà le vaisseau !»
Il pressait le pas maintenant. Puis ils s'arrêtèrent brusquement. Phalum éleva la voix, piaillant, avec excitation. Posé près de leur engin, se trouvait ce qui avait toutes les apparences d'un vaisseau aérien de conception antique, doté d'un rotor manifestement gaspilleur d'énergie et qui plus est d'aspect bien fragile. Debout, à côté de l'appareil, entre la petite troupe d'intrus et leur vaisseau, se tenaient quatre silhouettes humaines.
« Trop tard, » fit Trévise. « On a perdu trop de temps. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?»«
Quatre solariens ?» demanda Pellerate songeur. « Impossible. Ils répugneraient sans aucun doute à un tel contact physique. Seraient-ce des holo-images, à votre avis ? Ils sont tout ce qu'il y a de matériel, »
dit Joie.
« J'en suis certaine. Ce ne sont pas non plus des solariens. Impossible de confondre leur esprit. Non. Ce sont des robots. »